Rockstar avec Sylvestre de Fontaine.
Bonsoir, bonjour, c'est comme vous voulez puisque cette émission elle est consommable en écoute, en réécoute, en on-demand comme on dit aujourd'hui dans le jargon numérique. Bienvenue dans Drugstore numérique, on va parler culture, on va parler pop culture. Mathieu sera là avec nous pour nous parler du dernier Tintin, et oui, Hergé, bande encore.
Mais oui, c'est incroyable. Je crois que ce sera la seule fois de toute ma carrière sur Pure FM que je parlerai d'une nouveauté signée Hergé.
Et il y a aussi Laurent. Salut Laurent.
Salut Sylvestre.
Alors, j'ai parlé d'érection, on va parler de tabou avec toi.
Exactement, mais quel formidable et quel lien extraordinaire. Tabou, et ça se passera au 19e siècle dans le Londres de 1812 avec un des ténors du cinéma hollywoodien.
Et puis on parlera avec nos invités du chouette festival de Saint-Gilles. On parlera aussi du festival qui dérange, le Ramdam de Tournai, avec Nabil Benyadir qui viendra présenter son nouveau film en avant-première, en ouverture même du festival, et de On the Road A avec, ou On the Road Hey. Attention là, hein.
Oh, je t'envoie du lourd.
Là. Ouais, non mais j'y vais, c'est la première. Au théâtre de Poche avec Roda Fawaz. Bonjour Roda.
Bonjour Sylvestre.
Comment vas-tu?
Super, super.
Roda, tu viens nous parler donc de On the Road et je suis allé voir, c'est Mathieu qui est allé voir la pièce. Moi, j'ai lu un peu tout ce qu'on en dit. On en dit beaucoup, beaucoup de bien. J'ai vu un préambule qui est signé Amin Malouf sur le site du théâtre de Poche qui dit: c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est ce même regard aussi qui peut les libérer. Est-ce que, alors c'est en préambule de cette pièce, est-ce que c'est une bonne introduction? Est-ce que c'est un bon résumé selon toi?
C'est complètement le fil conducteur du spectacle.
Oui.
C'est l'histoire d'un personnage qui est moi d'ailleurs, qui raconte sa vie, et à travers ses étapes, on se rend compte que le regard des autres l'enferme dans une identité, mais aussi lui, son regard à lui sur lui-même. Hein, donc voilà quoi. Mais je vais laisser parler la personne qui a vu le spectacle.
Mathieu, est-ce que c'est un one man show qui ne dit pas son nom?
Exactement, oui. C'est un spectacle assez incroyable dans lequel Roda joue grosso modo, si je me trompe pas, une vingtaine de personnages pendant une heure et demie. Donc il donne vraiment de sa personne. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que c'est vraiment un mélange de choses plutôt graves, hein, la question de l'identité, hein, qui nous préoccupe tous beaucoup pour l'instant, et puis des choses très drôles et très légères. Et il y a notamment des running gags qui, moi, m'ont beaucoup fait rire. Régulièrement, Roda, dans le spectacle, s'adresse à son père, qui est toujours en voyage d'affaires, donc on ne sait pas si un jour il revient de ses voyages d'affaires. Et à chaque fois, son père lui répond de la même façon. Et puis, il lui sort une phrase philosophique qu'on ne comprend jamais. Donc, à chaque fois, la salle est morte de rire. Quand on entend ces phrases, où il faut quand même un peu réfléchir, bon, de temps en temps, on les comprend. C'est un peu du Jean-Claude Van Damme, version le père de Roda. Mais c'est très amusant.
Alors, où est la part de réalité, où est la part de fiction, justement, dans ce que ton papa pourrait dire ou aurait pu dire?
Mais en fait, dans le spectacle, tout ce qui est le plus vrai est peut-être le plus faux, tout ce qui est le plus faux est peut-être le plus vrai, et je m'amuse de ça. Et avec le père, il y a quelque chose qui est vrai, c'est vrai que mon père à moi, il a plutôt tendance à toujours me donner des conseils. Je sais pas vous comment ça se passe, mais moi
pareil.
Toujours voilà. Donc c'est,
j'ai, et je comprends jamais ça. Rien non plus, mais voilà.
Et donc c'est toujours un peu ça. Donc voilà, j'ai pris la réalité, mais c'est un petit mélange, mais tout le spectacle est comme ça.
D'origine libanaise, né au Maroc, grandi en Guinée, et de nationalité belge, et plus tu dis, et se revendique d'une gueule d'Italien. Vous, c'est vrai que tu ressembles.
C'est vrai?
Bah, okay. Un petit peu. Tu es un chanteur de charme comme ça.
Mais c'est comment déjà le personnage dans le spectacle?
Ah bah, c'est la Forza Italia.
Forza Italia.
C'est un groupe, en fait, qui a vraiment existé, là, pour le coup, qui était composé de Mario, Fano et Pietro, qui en réalité s'appellent Karim, Stéphane et Mamadou, et avait moi qui avait rejoint le groupe, et donc,
dans le spectacle, il chante du Eros Ramazzotti.
Ouais. Ne me demandez pas de chanter Eros Ramazzotti.
C'est exactement ce que j'allais faire.
J'ai vu le truc arriver. Non. Et en fait, c'est vrai qu'on se faisait passer pour des Italiens, même notre pote Mamadou qui était noir, pour rentrer en boîte de nuit parce que c'était compliqué.
Laurent, tu vas nous parler série aujourd'hui, une série qui s'intitule Tabou, et je vais utiliser un préambule. Si vous n'aimez pas Tom Hardy, chers amis, passez votre chemin.
Exactement, c'est très bien commencé. Tabou, c'est une toute nouvelle série qui est produite par la BBC et qui est coproduite et interprétée par Tom Hardy. Tout le monde qui sait, tout le monde sait ce que c'est qui Tom Hardy, oui.
Bah, c'est Laurel et Hardy.
Ah, oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors pour ceux qui ne sauraient pas qui est
Mathieu va nous miner l'émission des départs.
Écoutez, moi je suis là pour parler de Tintin, une BD d'il y a 88 ans. Donc.
C'est pas faux.
Alors Tom Hardy, ben on l'a vu dans Mad Max, c'est lui qui fait Max. On l'a vu, c'est lui qui fait Bane dans The Dark Knight, c'est lui qui jouait dans Bronson, dans Warrior, Inception. Bref, c'est ça annonce du lourd et comme tu l'as dit, c'est vraiment une histoire qui repose sur son personnage, il est de tous les plans. Alors son personnage c'est James Delany. Il revient à Londres en 1812 après un exil de 10 ans en Afrique. Alors il revient avec plein de diamants dans les poches, qu'il a obtenu l'air de rien un peu illégalement. Mais il revient surtout pour venger la mort de son père.
Alors diamants, vengeance, 19e siècle, film d'aventure, film historique, film historico-aventuro, on est où au niveau du taquet là?
Alors on dirait pas comme ça, mais c'est un gros mélo. C'est un mélo macabre, c'est sombre, c'est torturé, c'est poisseux et ça repose sur plein de mystères et un drame super solide. L'histoire, alors donc on suit ce fameux James joué par Tom Hardy, c'est un anti-héros aventurier solitaire et donc quand il revient à Londres, tout le monde le pense mort. Il est craint par beaucoup de personnes parce que c'est un personnage très très sombre, au passé un peu sinueux. Pour ça, il vaut mieux regarder le premier épisode. Et en fait, quand il revient pour assister aux funérailles de son père, il se rend compte que son père a laissé dans son testament une île. Et en fait, cette île est la chasse gardée de l'Angleterre parce que ça pourrait servir après la guerre, dans le conflit entre les États-Unis et l'Angleterre. Donc, cette île est convoitée par la compagnie britannique et James comprend très vite que son père a été assassiné par les sbires de la couronne dans le but de lui reprendre cette île en la rachetant à sa fille. Donc là, demi-sœur de James et à son mari arriviste que seul l'argent intéresse. Alors, évidemment, James réclame son dû, il est hors de question de vendre cette île et démarre une lutte comme ça entre un homme et tout un pays, entre David contre Goliath et ça mélange politique, commerce, chantage, pression et sombres secrets familiaux, le tout dans une ambiance donc très poisseuse du début du 19e siècle.
Personnellement, ça me donne envie parce que je sais que quand tu viens avec une série, ça donne parfois envie. Mais je me dis, oh là 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 là, un homme, un pays, poisseuse, machin, tout, 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 tout. Il y a des gens qui vont dire, moi, rien qu'à entendre Laurent, j'ai déjà mal au crâne, je la regarderai pas, quoi.
Écoute, si, il faut la regarder parce que c'est incroyablement bien réalisé. C'est d'excellentes factures au niveau du scénario, au niveau des interprétations, décor, ambiance, scénario. Alors évidemment, c'est pas le genre de série pour laquelle tu sors et que tu vas crier sur tous les toits. C'est génial, c'est la nouvelle référence série télé. Mais ça vaut vraiment la peine de par l'ambiance qui s'en dégage. Qui plus est, casting excellent avec Una Chaplin. Una Chaplin, c'est un Talissa dans Game of Thrones. C'est l'épouse de Watson dans la série Sherlock. Et c'est aussi interprété par Jonathan Pryce. C'est le gouverneur Swan dans Pirates des Caraïbes. Donc réellement tabou à voir, à découvrir. C'est vraiment ma révélation de ce début d'année 2017. En même temps, elle n'a jamais commencé que depuis quelques jours. Mais oui, excellent à voir.
Tu te mouilles pas trop.
Pas du tout. Vraiment pas.
Roda, série, pas série, parce que tout le monde dit aujourd'hui, oui, bah évidemment, je suis série, mais vraiment quelqu'un qui aime les séries et qui en consomme beaucoup.
Je consomme les séries qui sont terminées. Je consomme jamais une série qui n'est pas terminée. Et donc ouais, j'ai un peu mes classiques comme Oz, The Wire, Soprano.
Et donc,
Six
si t'achètes les coffrets, t'es plutôt du genre à binge-watcher tout dans ce.
Voilà, moi, j'aime pas attendre un an pour avoir la suite. C'est pour ça que Game of Thrones, j'ai attendu qu'il y ait les 4 premières saisons qui passent pour suivre. Et là, ça m'énerve d'attendre, en fait.
Et t'as vu que la dernière saison, il avait scindé en deux. Donc, on aura 8 épisodes et on devra encore attendre un an avant d'avoir les 8 derniers.
Voilà, c'est pour ça que j'aime pas ces séries. Et puis, je suis pas fan de Game of Thrones, en fait.
Pardon. Voilà.
Combien d'épisodes en perspective pour Unité 42?
10 épisodes de 52 minutes, je pense.
Unité 42, c'est la nouvelle série de la RTBF qui va suivre Public Enemy, Ennemi Public et La Trêve. Unité 42, elle est donc évidemment très attendue après ces deux séries-là. On se dit, waouh, j'ai l'impression en tant qu'acteur, comédien belge, de faire partie d'une aventure, d'une espèce de renouveau, des séries de la fiction.
Je pense qu'il y a une série qui va sortir juste avant qui s'appelle Illégal, qui va sortir juste avant. Nous, on va juste démarrer le tournage là. Ouais, ça fait plaisir en tout cas de voir qu'il y a une nouvelle dynamique au niveau des séries belges et que justement on essaye un peu d'élever le niveau, de ressortir un peu des anciens les anciens schémas des séries belges. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est aussi, c'est tout frais, c'est tout nouveau, mais je pense que ça va vraiment le faire.
Et dans ton spectacle, tu regrettes un petit peu que les comédiens, disons, d'origine étrangère, ben on les cantonne à des rôles de personnages d'origine étrangère dans les séries. Est-ce que dans cette nouvelle série, tu joues un personnage belge comme tu l'es en réalité?
Ouais. C'est vrai que ce que je reproche dans mon spectacle, c'est souvent les rôles qui sont pas assez complexes, ou c'est souvent, voilà, ça se limite à l'origine. Et là, ce qui est génial, c'est que je pense que c'est la première fois que je vais jouer un flic. Donc déjà, pour moi, c'est nouveau. J'ai plutôt joué les djihadistes plus que les flics. Et là, je joue un flic. Et il y a une complexité qui est mise autour du personnage, quoi. Et je l'ai fait aussi dans un film flamand, où là, je joue voilà, un personnage arabe, si on peut dire ça. C'est pas grave. Mais autour, il y a quelque chose d'intéressant. Il est homosexuel. Il a quitté son pays pour vivre une histoire d'amour. Et il fait évoluer le personnage. C'est pas toujours le cliché du personnage qui vient tuer. Ce que je raconte un peu dans le spectacle, d'ailleurs, où je raconte, j'ai joué le patron d'un restaurant qui tue sa femme et son beau-père parce qu'il est trafiquant de drogue. Enfin, ça, c'est un peu basique pour moi.
Sans vouloir emprunter de lieux communs, tu as parlé d'évoluer. Est-ce que justement ton spectacle On the Road ça permet de faire un peu évoluer les mentalités? Est-ce qu'il y a cette volonté-là en filigrane, consciente ou inconsciente, hein, mais est-ce qu'il y a un peu de ça derrière?
Sincèrement, je vois pas la chose. Je pense jamais à ça. Je fais le spectacle. Moi, je m'amuse. C'est vraiment un vrai moment de partage. C'est pour ça que d'être dans la salle et de venir partager ça avec les gens qui viennent aussi d'univers complètement différents, c'est vraiment très intéressant. Mais moi, ce spectacle, je le fais plus comme une forme de légitime défense, en fait. J'ai l'impression que aujourd'hui, à travers les débats qu'il y a sur l'identité, ce mot ne veut rien dire d'ailleurs, ou ces soi-disant philosophes qui prennent la parole, ou parfois les médias aussi, qui parfois s'amusent un peu avec les événements pour essayer de nous chauffer tous, je le prends un peu comme si on violait un peu mon espace personnel. Et ce spectacle, c'est juste une manière de dire, bon, voilà ma version des faits, je la partage avec vous, si vous avez envie d'écouter, vous êtes les bienvenus, mais vous n'êtes pas obligés, quoi. Ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui ne peut pas entendre.
C'est rétablir un équilibre.
Ouais, c'est ça, exactement.
Voilà. Et ce qui est très amusant dans le spectacle aussi, c'est qu'à chaque fois que Roda débarque quelque part, son interlocuteur lui demande « Mais tu viens d'où ?» Et à chaque fois, il répond à côté. Donc, il arrive en Belgique, on lui demande « Tu viens d'où ?» Il dit « je viens de l'immeuble derrière. »« Oui, mais tu viens de quel pays ?»
Ouais.
Puis il arrive au Liban, on lui demande « Mais tu viens d'où ?» Il répond « Je viens de Belgique. » Il dit « Oui, mais d'où au Liban ?» Donc, à chaque fois, c'est amusant de voir que la question « Tu viens d'où ?» par pays ou par région, ça n'a pas la même signification, en fait.
On the Road, c'est au théâtre de Pau jusqu'au 28 janvier. C'est signé Roda Fawaz.
Alors c'est là, Sylvain, ce que je vois, que t'as pas capté le titre. On the Road, mon nom c'est Roda, c'est On the Road A.
Ah.
T'as pas capté la subtilité.
Mais je t'avoue que je l'ai capté seulement aujourd'hui.
Ouais,
hier soir au spectacle, je savais pas que ça voulait dire ça.
Voilà.
On va la refaire, non? Je
déconne. Non, non, non.
Parce que de toute façon, c'est pas monté. On the Road A avec Roda Fawaz. Merci beaucoup, Roda.
Merci à vous.
Stan Bourguignon est avec nous pour nous parler d'un festival, le Chouette Festival, qui se passe à Saint-Gilles. Chouette Festival Saint-Gillois, les 20 et 21 janvier. Bonjour Stan.
Oui, bonjour.
Alors Stan, pourquoi on t'a invité au milieu de la pléthore de festivals qu'il y a lieu à Bruxelles? Parce que j'ai le sentiment que ce festival, il a quelque chose de particulier. Il a une approche particulière. Quel est l'esprit de ce festival?
À la base de ce festival, il y a un collectif, qui est le collectif Chouette ASBL. Donc, c'est des groupes de musique, ça existe depuis quelques années. On s'est rassemblés, on a cherché à créer une structure pour pouvoir un petit peu partager des expériences, des moyens et faire évoluer, faire connaître les groupes, en fait. Et donc c'est une de nos activités là, c'est d'organiser un petit peu des événements qui visent à faire connaître tous ces groupes. Et donc c'est des groupes 100% bruxellois. Et cette fois-ci, il y a des groupes du collectif Chouette ASBL, parce que c'est pas la toute première édition, mais
c'est la 7e, je crois, déjà.
Alors oui, donc ça se fait dans le cadre du festival Sacré Saint-Gilles,
ouais,
qui est organisé pour la 7e fois par le Jacques Franck. Et eux sont venus nous chercher en disant, en fait, voilà, on a envie de vous proposer une carte blanche.
Parce que c'est une espèce de coproduction, hein.
C'est ça, c'est une coproduction avec le Centre culturel Jacques Franck, dont on se sent assez proche, et donc voilà, c'est vraiment, oui, on partage bien sur l'organisation et la manière de faire.
Tous ces groupes, c'est quoi leur point commun? Les groupes qui rejoignent effectivement l'association, le collectif, parce qu'il y a toujours, il y a des collectifs qui sont plutôt punk, des collectifs qui sont plutôt world music. Là, effectivement, ce sont des collectifs, tu as dit 100% bruxellois, mais j'allais dire, c'est un peu large quand même, 100% bruxellois.
Ça représente un chouette vivier de musiciens. Il y a du public qui est là autour. Il y a des gens qui aiment bien s'intéresser à différents types de musique. Ce qui nous rassemble, c'est des musiques acoustiques. On va pas nécessairement trouver de groupe de rock, pas de musique électronique. Donc voilà, vraiment des musiques acoustiques du monde entier. Donc ça se balade, et là ça va être le cas pendant le festival, ça se balade des musiques des Balkans, d'Europe de l'Est, dans différentes formes, jusqu'à du swing, pas mal de musique du coin de la Nouvelle-Orléans, etc.
Et quand on voit dans le programme, il y a quand même quelque chose qui est un peu intriguant, c'est le punk pour enfants. C'est quoi ça, le punk pour enfants?
Alors Girophare, c'est un projet de la Boîte à Clous, qui est un collectif ami de collectif Chouette SBN. Et donc punk pour enfants, bah ouais, ça déménage pas mal, et alors ils prennent pas trop de pincettes.
Leur permet de se défouler, quoi.
Et avec les gamins, ça saute bien, ouais.
Oui, parce que je vois à partir de 5 ans quand même, donc c'est.
Et même en fait d'un peu plus petit, ça.
Ça va être vraiment drôle à voir, ouais.
Je crois que ça, allez, des enfants de 3 à une dizaine d'années peuvent vraiment bien rigoler, bien décoller sur ce concert-là, quoi.
C'est destiné à quel public? Alors évidemment là les enfants, on a bien compris, mais de manière générale,
un public qui est ouvert sur le monde, un public qui a envie de découvrir des choses. Donc il y a toujours cet aspect jeune public en début de soirée, et après ça va quand même clairement vers des choses un petit peu plus festives, où on espère que les gens vont danser. On a aussi prévu d'utiliser différents espaces du Jacques Franck. Donc il va y avoir des concerts qui vont se passer dans le bar, dans la petite salle, dans la grande salle. Ça va un petit peu circuler de partout. Et voilà.
Moi, ce que j'aime beaucoup quand on regarde le line-up, c'est cette espèce de digestion de ces groupes qui viennent à Bruxelles et qui proposent une musique qui est leur musique d'origine, hein, la musique des Balkans par exemple pour Kaba, mais qui est une musique des Balkans faite à Bruxelles. Il y a aussi de la musique de la Nouvelle-Orléans qui est faite à Bruxelles. C'est j'allais dire presque ce syncrétisme, pour utiliser un mot un peu compliqué, donc cette assimilation d'un genre musical dans cette ville qui est Bruxelles, dans cette ville qui est multiculturelle, on ne le dit jamais assez.
Oui, c'est super vrai. Et nous, on le vit beaucoup. C'est des rencontres autour de la musique. C'est des envies de toucher à d'autres répertoires, de le croiser avec ce que nous on connaît, ce qui sont des références, et voilà, d'en faire quelque chose qui, allez, vraiment pour beaucoup de groupes qui sont là, ça fait quand même pas mal danser. Ça bouge, quoi.
Et quand on parle, par exemple, de musique balkano-belge, en quoi est-ce qu'elle est différente de musique des Balkans? C'est quoi le côté belge en plus?
Ils boivent de la bière plutôt de la vodka.
c'est un clin d'œil. Maintenant, c'est vrai que c'est un groupe qui... Donc là, en l'occurrence, on parle de Bernard Orchestar. C'est un groupe qui ne joue pas de musique traditionnelle, mais que des compositions originales. Donc forcément, on est dans quelque chose où un puriste dirait « Mais non, mais c'est pas du tout de la musique des Balkans. » Alors ici, on se dit « Bah aussi, c'est une fanfare Balkan. » Mais voilà, il y a dans les formes, dans la manière de jouer, tout ça. Et puis dans ce qu'on en fait aussi, dans les arrangements, c'est des musiques traditionnelles à la base, qui sont relativement figées. Ça se joue d'une manière, mais pas nécessairement n'importe laquelle. Nous, on interprète beaucoup ça. Et ça a commencé par du répertoire traditionnel, et puis voilà, ça évolue petit à petit. C'est le cas de beaucoup des groupes qui vont être présents là.
Chouette festival Saint-Gillois, ça se passe au Jacques Franck de Saint-Gilles, c'est marqué dessus, le 20 et le 21 janvier prochain, avec notamment, et on le redit, du punk pour enfants à partir de 3 ans qui s'appelle Girophare. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci pour l'invitation.
Drugstore.
Drugstore Digital, aujourd'hui avec nos chroniqueurs, Mathieu, notre chroniqueur BD, et Laurent, chroniqueur série. Et Nabil Ben Yadir nous a rejoint. Bonjour Nabil.
Bonjour.
Nabil qui vient nous parler de son film qui s'appelle Dos de Hook, ou Angle Mort en français, et qui vient en filigrane nous parler du festival Ramdam, le festival du film qui dérange, puisque c'est le film d'ouverture de ce festival qui commencera dans quelques jours du côté de Tournai, 7e édition, 14 au 24 janvier. Moi, j'ai regardé quelques images de ce film. Je me suis dit, ouf.
Et tu t'es dit ouf?
Ouais. Je me suis pris. J'ai regardé
que quelques images. C'est plutôt bon signe.
C'est bon signe. Je me suis dit, ouf.
C'est pas notre chroniqueur cinéma en même temps. Hein.
C'est le chroniqueur bruitage. Ouf.
Bien,
ouf.
Bien. Non, non, oui, mais c'est un film un peu.
C'est une bling, c'est une claque, quoi. Ça a l'air d'être même un coup de poing parfois.
En tout cas, c'est le sentiment que certaines personnes ont en sortant. Ouais. C'est un film assez dur, mais c'est un thriller, quoi. Thriller politique, policier, un peu comme vous le sentez.
L'idée vient d'où?
L'idée, c'était justement de parfaire le même film, d'aller vers des histoires qui me touchent et d'assumer le genre thriller. Je pense qu'en Belgique, ça se passe pas souvent, en tout cas en Belgique francophone. C'est peut-être pour ça que je l'ai fait en flamand.
Ben oui, justement, c'est la question que j'allais poser, c'est pourquoi l'avoir fait en flamand?
Parce que mon personnage habite à Anvers et c'est un commissaire anversois.
Oui, mais il aurait pu être Verviers, toi.
Non, Anvers. Non, non, c'était intéressant de, ouais. De lier un peu ces deux villes qui sont Anvers et Charleroi dans la même ligne de train que un certain De Wever veut supprimer finalement, parce qu'apparemment très peu de gens commencent d'Anvers pour aller jusqu'à Charleroi. Non, non, voilà, c'était cette espèce de passé aussi de ce personnage qui est Yann Verbeek, commissaire de la brigade des stupes, l'homme parfait, le héros de la Flandre qui va sauver. Nettoyer Anvers comme certaines veulent nettoyer Molenbeek, et qui va se retrouver face à son passé, quoi, en pleine élection justement, parce que l'idée c'est que le film se passe à partir du moment où il annonce qu'il démissionne en tant que commissaire, qu'il se présente dans un parti très 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 à droite.
Un garçon qui est un peu parfait aussi, c'est Tintin.
Oui.
Et c'est l'objet de la chronique BD d'aujourd'hui,
ben
Mathieu.
Oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai que je veux vous parler de Tintin aujourd'hui. Alors, pourquoi parler de Tintin? Et surtout d'un album qui est commencé à paraître il y a 88 ans, donc en 1929 quand même. Mais tout simplement parce que c'est l'un des événements BD de ce début d'année. Donc, près de 90 ans après sa première parution en noir et blanc, donc c'était en 1930, hein, la première album, ben il passe enfin à la couleur, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il était jamais sorti en couleur. Et pour vous montrer un peu que c'est un événement, bah, le premier tirage de cet album, il est quand même de 350 000 exemplaires, et les éditions Casterman s'attendent à en vendre 500 000 durant l'année 2017.
Pourquoi c'est un tel événement, la sortie de ce Tintin chez les Soviets en version colorisée? On a connu d'autres versions colorisées, on a même connu La Vache et le Prisonnier en version colorisée, ça n'a jamais fait autant de... Enfin, c'était en cinéma, mais autant de remugle. Pourquoi cette fois-ci c'est... Est-ce que c'est monté en épingle par Casterman, par exemple?
Bah, c'est clair qu'il y a un événement, hein, qui est orchestré, il y a un ramdam médiatique qui est là pour doper les ventes et pour écouler ces 350 000 exemplaires. Mais malgré tout, c'est quand même un événement, parce qu'il faut savoir que Tintin au pays des Soviets, bah, c'est le seul vieil album de Hergé qui n'avait jamais été redessiné par Hergé, puisqu'on sait qu'il existe parfois jusqu'à 3 versions d'un même album de Tintin. Et c'est aussi le seul qui n'avait jamais été mis en couleur. Alors, c'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où il y a 2 pages de cet album qui étaient parues en couleur en 1929 dans l'édition de Noël du Petit 20e. Mais évidemment, peu de personnes, on se rappelle de ces 2 pages en couleur. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on redécouvre quelque part cet album, et on se rend compte que cet album s'inspire en fait d'une histoire réelle, puisque Hergé s'est inspiré de l'histoire de Palle Hulde, qui était un jeune Danois dont on a complètement oublié le nom, mais qu'on redécouvre aujourd'hui, un jeune Danois de 15 ans qui avait gagné un reportage autour du monde pour le journal Politiken, un journal qui existe toujours, un journal danois, en 1928, et qui était habillé exactement comme Tintin dans cet album, qui lui ressemblait très fort, et qui a fait, comme Tintin fait un retour triomphal à Bruxelles à la fin de cet album, il a fait un retour triomphal à Copenhague à cette époque-là. Et donc c'est vraiment étonnant de découvrir à quel point Hergé s'est inspiré de cette histoire pour faire cet album. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que cet album ne fait partie de la collection officielle des albums de Tintin que depuis 1999. Donc, si vous vous souvenez sans doute des albums Tintin que vous avez lus dans votre jeunesse, ben, toutes les couvertures des albums qui étaient sur le quatrième de couverture, eh ben, il n'y avait pas Tintin au pays.
Ça commençait au Congo, je crois, hein, ou en Amérique.
Ça commençait au Congo.
Au Congo, ouais.
Et ce n'est qu'en 1999, et d'ailleurs l'album a été introuvable, grosso modo, entre 1930 et 1969. Donc ça montre quand même que c'est un album qui n'est pas comme les autres, et qui a longtemps d'ailleurs été considéré un peu comme un album primaire, un album idéologique. C'est vrai que, clairement, Hergé, quand il dessine cet album, il a 21 ans. Il baigne à fond dans ce milieu catholique un peu conservateur, et c'est clair que c'est un album de commande aussi, donc on lui demande quelque part de dénoncer les dérives de l'Union soviétique de l'époque, des bolcheviks. Mais en lisant l'album, eh bien en réalité on découvre que cet album, bah, il n'est pas si engagé que ça. Bien sûr, il y a des séquences
Ouais, où on dit, voilà, tu te retrouves dans un endroit où on stocke tout ce qui a été volé par Staline, Lénine.
C'est ça, exactement. Il y a des fausses usines, etc. Mais on découvre que c'est surtout un album très burlesque, où Tintin ne reste jamais en place. Ça bouge tout le temps, ça bouge dans tous les sens. C'est d'un dynamisme incroyable. D'ailleurs, c'est dans une des séquences de cet album qu'à un moment donné, Tintin démarre en voiture, et c'est à ce moment-là que ses cheveux se relèvent. L'histoire de la houppette. C'est à partir de ce moment-là qu'il aura cette fameuse houppette. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que avec la mise en couleur, quelque part, le personnage qui ressort le plus, eh bien, c'est le seul personnage qui ne passe pas la couleur, c'est-à-dire c'est Milou, qui lui reste blanc. Et on se rend compte que, bah, évidemment, dans cet album, il n'y a pas encore le Capitaine Haddock, il n'y a pas encore les Dupont, il n'y a pas encore la Castafiore, il n'y a pas encore Tournesol, enfin, il n'y a pas encore tout l'univers qui sera celui de Tintin. Et donc, bah, quelque part, le personnage le plus drôle dans cet album, bah, c'est Milou. Et on découvre qu'il est extrêmement insolent, qu'il n'hésite jamais à faire des remarques un peu cinglantes, y compris à l'adresse de Tintin, etc. Donc c'est vraiment lui qui vole quelque part la vedette de Tintin dans cet album.
Certains ont dit, parce qu'il y a des critiques négatives autour de cette colorisation d'album de Tintin chez les Soviets, certains ont dit qu'il n'y avait qu'Hergé qui aurait pu coloriser, je crois que c'est son secrétaire qui a dit ça, on a pu lire ça dans la presse, et d'autres ont même dit que c'était vraiment contourner la volonté d'Hergé, qui lui ne voulait pas qu'on continue son œuvre et qu'en colorisant un de ses albums, bah, c'était un peu contourner cette chose-là et vendre encore des albums sur le dos du mort.
Bah, quelque part, c'est vrai qu'il y a une polémique là entre les experts de Hergé, parce qu'il y a d'autres experts de Hergé qui disent que non, Hergé avait bel et bien l'intention à la fois de redessiner cet album et à la fois de le coloriser, mais il a simplement pas eu le temps de le faire, et peut-être aussi que c'était un album plus difficile à redessiner que les autres. Ce qui est sûr, c'est que Hergé lui-même avait fait deux pages en couleur de cet album, et c'est notamment en partant de ces pages-là et en partant de la couverture de l'album de Tintin au pays des Soviets original sur lequel on voyait certaines couleurs que les graphistes de Moulin Sarr se sont basés pour faire la mise en couleur de cet album. Maintenant, peu importe quelque part la polémique autour de est-ce que c'était la volonté d'Hergé ou pas, ce que je pense qui est positif dans la sortie de cet album, c'est que ça va quelque part permettre de redécouvrir cet album qu'on avait un petit peu oublié, il faut bien le dire, et qui permet de redécouvrir vraiment la jeunesse de Hergé. C'est incroyable de se dire que à l'époque où il dessine cet album, bah, la bande dessinée grosso modo n'existe pas. Et lui a 21 ans et on découvre déjà vraiment toutes les bases de ce qui sera de ce qui fera le succès de Hergé dans tous les albums par la suite. Et je pense que la version en couleur est quand même bien plus facile à lire et bien plus lisible que la version en noir et blanc.
Nabil Ben Yadir, ça vous parle, Hergé, Tintin, ce genre de choses?
Oh, bien sûr, tout à fait. J'en ai lu quelques-uns. J'adore Coke en stock. Pourquoi?
Chacun, je pense que chacun, moi j'adore.
Pendant des années, je croyais que c'était Coke en stock, tu vois, de la Coke.
C'est vrai que si on faisait un nouvel album de Tintin aujourd'hui, peut-être que ce serait Coke en stock.
Ouais.
Oui, c'est sûr que.
Il a dû en avoir les poches. Non, mais moi je suis assez fan de. Je suis assez curieux parce que je ne sais pas l'histoire, en tout cas le passif de Tintin en soviet, mais ça me donne envie. Moi, je trouve que c'est bien d'aller au-delà et de continuer de
ouais, je pense
coloriser. Je suis curieux, moi.
Je pense aussi qu'il faut prendre cet album comme quelque part presque un document historique, hein, ouais. Comme une preuve à la fois de la naissance de la bande dessinée en Europe et du sentiment un peu qui prédominait dans ces années-là, et notamment de la vision qu'on avait de l'Union soviétique, qui à l'époque était évidemment considérée par certains comme scandaleuse, mais avec le recul, on n'était peut-être pas si loin que ça de la vérité.
Un document historique aussi, et je rebondis, c'est La Marche, qui est un de vos films, justement. Alors, il y a La Marche, pour ceux qui ne savent pas, Les Barons, et aujourd'hui Angle Mort, d'Aude Hook, donc nouveau film. C'est, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'envie de ne pas se redire, de ne pas faire, de toujours creuser le même sillon. Mais il y a quelque chose qui traverse, il y a un fil conducteur, alors il y a vous, évidemment, mais qui traverse ces trois films qui sont, pour le coup, très 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 différents les uns des autres.
Oui, très différents déjà dans le style. Bon, les Barons, c'est assez spécial, mais moi ouais, je pensais pas. Moi, c'est je pourrais te dire ça avec le quatrième film. je pourrais te dire, mais c'est toujours les rapports humains évidemment.
Oui.
C'est toujours des grandes aventures humaines. Les Barons, les Glandeurs, les Marcheurs. Là, c'est vraiment aussi le rapport. En tout cas, c'est un film sur la Belgique finalement, d'Aude Hook. On parle d'un mec qui va arriver aux élections, mais c'est le rapport entre justement ces trois villes, parce qu'on tourne à Anvers, Charleroi et Bruxelles à la fin, sans spoiler la fin. C'est vraiment le triangle, hein, ABC, Anvers, Bruxelles, Charleroi. Ces trois villes peuvent définir en tout cas elles-mêmes le pays dans lequel on vit.
On l'a dit aussi, c'est un film que vous avez tourné en flamand, en néerlandais, yeah. Parce que voilà, il y a le côté thriller et il y a ce côté où on en faut beaucoup plus au nord du pays qu'au sud du pays. Moi, ça m'a fait penser notamment à un film qui s'appelle Le Bal Masqué de 1998, qui est un film de Julien Vrabos.
Vrabos, ouais, sur voilà. La tuerie du Brabant.
Exactement, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques similitudes. En tout cas, on retrouvait effectivement ce côté poisseux, ce côté un peu presque complotiste, on cache des trucs. C'est un peu la Belgique qu'on essaye d'enterrer comme ça, derrière des trucs, quoi.
Pas, ouais, voilà,
pas net, quoi.
Exactement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est, je sais pas si c'est l'histoire du film, c'est aller au-delà peut-être derrière, au-delà des discours politiques, savoir qui parle et ce qu'il y a derrière. C'est un peu pas le message du film. C'est pas un film qui dénonce, qui ment. Tu vois, ça reste un thriller, mais c'est aller au-delà des apparences, évidemment. Cette personne qui est l'homme parfait, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Personne n'est parfait, évidemment. Mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière? Les discours politiques, des fois haineux, des fois populistes, on les a maintenant, on les ressent, que ce soit en Belgique, que ce soit en France. Trump, le 20 janvier, 5 jours avant la sortie du film, c'est un super coup de pub, c'est bien. La stratégie a marché. Mais voilà, c'est ça, en fait. C'est finalement ce qui est en train de se passer, hein. C'est les caïds qui sont au pouvoir.
Il y a aussi quelques similitudes avec un film qui va sortir en France, qui s'appelle Chez nous.
Oui, justement, de
qui était aussi une manière de montrer, de décortiquer le discours politique, mais sous l'angle humain.
Ouais, tout à fait. Je suis très curieux. Moi, je vais pas. Voilà, le Front National l'a descendu sans l'avoir vu. C'est un super coup de pub. Après, je sais pas si c'est bien parce que c'est très tendu en France, hein, quand on voit les estimations de vote et les sondages. Voilà. Et puis moi, j'avais un peu connu ça, moi, l'espèce de tension avec la marche. Avec des menaces, etc. à l'époque.
C'est vrai, vous avez des menaces par rapport à ce film-là?
Oui, tu vois ça dans les commentaires, tu vois ça même dans des emails. Je me rappelle, on l'avait pas dit à l'époque, mais on était des fois menacés de mort quand on partait dans une ville, on avait des menaces, il y a des tweets qui nous menaçaient en disant qu'on allait faire des ratonnades sur nous. Puis après, bon, c'est comme le bâton de berger. Enfin, c'est quoi? Parle le moins qui en mange le plus.
Ça, c'est les frites
maquées, excusez-moi, le bâton de berger, frites maquées, les gars. On est en Belgique, hein, saucisse et frites.
Et par rapport au film d'Odo Hook, justement, il y a une crainte aussi d'avoir.
Non, pas du tout. Non, mais c'est un thriller. C'est un thriller. Non, pas du tout. C'est au-delà de l'aspect politique, le personnage qui est politique, c'est avant tout un film cinéma. On le voit dans le film, c'est pas un drame social. C'est un vrai thriller policier, politique. Et au-delà de tout, c'est une histoire humaine, quoi. C'est l'ascension d'un mec qui va casser les dents.
Nabil Ben Yadir signe Angle Mort d'Aude Hook qui ouvrira le Ramdam Festival de Tournai. Ça se passera du 14 au 24 janvier. Le Ramdam, c'est le festival du film qui dérange. Et franchement, on vous a mis la bande-annonce de ce film sur la page Facebook de Drugstore. Elle donne super, super envie. Merci beaucoup.
Merci pour l'invite.
Et merci à vous d'avoir été là, chers followers, chers fans, je ne sais plus comment on dit, les gens qui regardent, les gens qui écoutent cette émission Drugstore Digital que vous allez pouvoir télécharger et retélécharger à l'envi. On vous a mis toutes les infos sur la page Facebook de Drugstore. Merci les amis.
Ciao Sylvestre.
Salut Sylvestre.